L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'actu sur un plateau, l'émission quinzomadaire qui relaie les actualités locales. Aujourd'hui, nous parlerons des revendications du lycée Jean Vigo. Une manifestation s'est tenue mardi dernier, organisée par les professeurs et parents d'élèves contre la baisse des moyens pour la rentrée prochaine. Deux enseignants seront avec nous pour en parler en seconde partie d'émission. Et pour l'instant, nous accueillons notre premier invité.
L'invité de l'actu culturelle.
L'actu culturelle. Bonjour Antoine Dubruel, merci d'être avec nous.
Bonjour Léa.
Alors vous êtes artiste peintre et vous résidez sur le territoire, à Millau pour être plus précise.
Oui voilà, bon, je suis un artiste indépendant, un petit peu vagabond, mais c'est vrai que j'ai posé essentiellement mes valises sur Millau.
Alors aujourd'hui, vous êtes artiste, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez commencé par faire des études de droit. Et puis ensuite, vous avez changé de cap, direction des études d'histoire de l'art. Comment vous avez réalisé cette transition ?
Alors, en fait, à l'époque, j'ai fait droit par, vocation familiale, dirons-nous. C'est-à-dire que c'était plutôt la profession qui s'exerçait du côté paternel. Et j'ai décidé de m'orienter vers l'histoire de l'art après avoir obtenu une licence en relations internationales publiques parce que, je voulais faire des études gratuites à l'époque. Enfin, c'est ce que je disais en tout cas. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai découvert la peinture, forcément. On nous passait beaucoup de diapositives. Et en fait, je suis allé vers là et je n'ai pas regretté parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, en fait, et j'y ai pris beaucoup de plaisir.
Donc aujourd'hui, vous êtes peintre à temps plein ?
Oui, à temps plein. Je suis artiste-auteur depuis 2016.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos sujets de prédilection ? J'ai l'impression que vous êtes attiré par la nature. On découvre d'ailleurs sur votre site une forte inspiration pour les paysages des Grands Causses.
C'est vrai. Ils sont rentrés dans ma peinture dès 2003, mais de manière parmi les motifs que je développais à l'époque. Je parle des paysages des Grands Causses, en particulier les falaises. Ils se sont vraiment développés par la suite, à partir des années 2010 et même 2014, parce que j'étais beaucoup plus fréquemment sur le territoire et ces paysages sont somptueux. C'est des paysages qui permettent picturalement d'aller très loin. Et je les utilise. Et c'est vrai que ça permet d'apporter beaucoup de choses à mon travail. Ça, c'est certain.
Ce sont ces paysages qui vous ont attiré sur le territoire, parce qu'il me semble qu'à l'origine, vous n'êtes pas du Larzac.
Alors, oui, on peut le voir dans ma peinture, d'ailleurs, parce que je suis né au bord de l'Atlantique, à Bordeaux, exactement. Et je fréquentais beaucoup l'Atlantique quand j'étais gamin. La mer, moi je suis un homme de la mer à la base. Donc c'est vrai que souvent mes tableaux, ils peuvent paraître particuliers au niveau du sujet, si on peut parler de sujet. Parce que oui, il y a les falaises, l'Écosse, l'Arzacien, Sauveterre et le Lévezou. Il y a tous les causses qu'on peut trouver dans le sud d'Aveyron. Je les cite pas tous, hein, bien sûr. Mais ils sont mélangés avec des visions maritimes aussi, un peu comme une arrivée quelque part.
Justement, parmi les couleurs que vous utilisez, toujours très vives, on retrouve des tons très bleutés. Donc peut-être pour noter ce lien avec la mer, et qui marque un fort contraste avec des tons rougeoyants qui donnent parfois des impressions de magma et de volcan. Pourquoi ce contraste fort ? Peut-être que du coup vous avez donné un élément de réponse avec votre côté homme de la mer, comme vous dites.
Alors, deux choses. Le bleu, évidemment, on pense au ciel, on pense à l'eau, évidemment. Moi, j'aime les correspondances et les effets de miroir. Donc, souvent, si vous regardez bien mes tableaux, on peut regarder une mer et voir le ciel en même temps dans la mer. C'est ça que j'aime bien. Par contre, sur la question des couleurs, depuis très très longtemps, je travaille la couleur, je dirais même de manière un peu scientifique. Mmh. Et en fait, lorsque je commençais 2 ans après avoir débuté la peinture, j'étais autodidacte et en fait, je commençais des cours. J'avais des questionnements à l'époque, moins sur la perspective comme aujourd'hui et plus sur la couleur. Et en fait, je suis parti à la base du principe des couleurs primaires et complémentaires. Et puis après, bon, ce travail-là s'est développé et même devenu d'une certaine manière un peu automatique. Et c'est pour ça que souvent, on retrouve quand même les couleurs principales dans mon travail.
Mmh. Voilà. Mais ce lien avec le magma et les volcans, du coup, est-ce qu'il existe vraiment ou c'est vraiment mon interprétation personnelle?
Je ne sais pas, c'est peut-être mon volcan à moi, je ne sais pas. c'est le feu qui est, oui, à l'intérieur. Hein, quand je peins, bon, c'est un moment extrêmement particulier pour moi et il y a beaucoup de tension dans le sens que je veux pas rater. Hein. Mmh. Et là, oui, il y a une forme de puissance éruptive dans mon travail de peintre qui peut-être se retrouve dans ma peinture, peut-être, je ne sais pas.
Et avec vos touches très colorées, donc qui dénaturent un petit peu les couleurs originales pour les rendre plus vives, je situerai votre art, disons, entre l'impressionnisme, l'expressionnisme et le fauvisme. Qu'en dites-vous ?
Alors, oui, c'est des bons courants pour aborder mon travail. Parmi les mouvements que vous citez, il y a des peintres que j'aime énormément, comme la première période de Rhin, évidemment. Bon, après, c'est autre chose. Moi, ça m'intéresse un peu moins. Claude Monet, évidemment, qui est un peintre que j'ai énormément regardé, notamment quand je me suis rendu à Paris. Je suis allé plusieurs fois au musée Marmottan et j'ai eu la chance de voir beaucoup de nymphéas et j'ai pris un plaisir extrême à voir ces tableaux parce que c'est un peintre exceptionnel. Enfin, bien sûr, hein, je dis ça, moi en tout cas, c'est mon sentiment. Mmh. Et puis, oui, j'ai beaucoup regardé ces peintres-là. Mmh. Par contre, quand je peins, quand je suis dans mon travail, le mien, j'oublie complètement ça. Je pense pas du tout à eux ou à leur travail. Mais c'est vrai quand même que j'ai un goût pour cette peinture-là. Et parfois d'autres, mais ce sont plus des peintres indépendants qui sont hors mouvement, dirons-nous. Mmh. Voilà.
De toute façon, on regarde souvent les choses qui nous inspirent par rapport à soi-même.
Tout à fait.
Donc, vous utilisez majoritairement de la peinture à l'huile pour vos tableaux en couleur et puis sinon de l'encre pour vos tableaux, parce que vous faites aussi des tableaux en noir et blanc.
Oui.
Pourquoi ces deux outils spécifiquement, techniques spécifiques?
Alors, peut-être le côté tradition, dirons-nous. La peinture à l'huile, c'est la peinture européenne. Hein. Elle est née au fin du 15e, début du 16e, fin du 15e en Hollande. C'est une peinture qui vraiment est propre à l'Europe, je dirais. J'aime parce que au niveau de la matière, au niveau de l'alchimie, il y a quelque chose que je trouve pas ailleurs. Pour ce qui est de l'encre de Chine, c'est plus un rapport au souffle, c'est un peu la peinture chinoise, c'est la peinture asiatique. Et c'est très ancien, hein, l'encre de Chine, hein, ça remonte au premier millénaire. J'aime ça aussi, alors là, pour le côté gestuel, le côté transparence. Et évidemment, c'est une autre peinture. Mais oui, ce sont vraiment mes deux médiums principaux. Mmh. Voilà.
Et donc, vous êtes centré essentiellement sur les paysages. C'est vraiment un choix.
Alors, j'ai commencé par le corps humain pendant peut-être 3 ans. Après, il y a eu une transition où le paysage et le corps se sont mêlés. Et puis, je suis passé au paysage comme un développement à partir du corps et puis, dans un second temps, le paysage. Et en fait, je trouve qu'il y a un caractère intemporel dans le paysage. Après tout, nous, je vais dire quelque chose d'un peu... Mais on est... on est là et puis peut-être un jour on sera plus là. Donc bon, finalement, j'aime bien le paysage qui est là et puis qui nous remet à notre place parfois. Et puis j'aime bien l'absence de l'humain, enfin l'absence, pas réellement, hein, mais pas une présence, comment dire, physique comme on peut la connaître nous tous les jours, quoi. Mmh. Voilà.
Et ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que parfois, on retrouve les mêmes, par exemple, pour être concrète, j'ai vu souvent la même cause qui revenait sur plusieurs de vos tableaux.
La même, pardon ?
Le même paysage.
Le même paysage, d'accord.
La même cause, non ? C'est pas le cause Méjean ou...
Ah non, il y a quasiment tous les causes.
Mais pas le Méjean.
Si, si.
Ah, d'accord. J'ai cru qu'il y était en plusieurs fois.
Alors attendez, parce que là, vous me posez une colle. Je l'ai souvent regardé. D'ailleurs, dernièrement, je l'ai beaucoup regardé, le Méjean. Mais oui, j'ai dû prendre des passages parce que je l'ai eu très longtemps devant les yeux. D'ailleurs, là, dans la prochaine exposition que je dois organiser, il y aura pas mal de vues du Méjean. D'ailleurs, dans des techniques qui ne sont pas forcément celles que j'emploie habituellement. Enfin... En tout cas, une façon de travailler qui est un peu différente. Voilà. Mmh. Mais oui, tous les causes m'intéressent parce qu'ils ont tous leurs spécificités. Hein. C'est pas la même nature, c'est pas les mêmes reliefs. La topographie est très différente. Et suivant les causes, bon, moi, je les aime tous. Et justement, les grandes variétés qu'on peut voir à travers les causes permettent justement, pour moi en tout cas, de faire une peinture très libre, parce qu'après, je les utilise, et dans ma peinture, par contre, je me permets le droit de les trahir
un
peu.
Oui, c'est ça. Et puis, en plus, en fonction, j'imagine, de la lumière, de la journée, tout peut changer, même si on est sur le même point de vue.
Alors, tout à fait. J'avais dit ça lors de l'exposition à Millau, à l'Espace Culture, en 2019, que, ben oui, je vois pratiquement tous les jours la puncho, et la puncho, ben oui, suivant la lumière, suivant le temps, le climat. Si on la regarde, les gens s'en rendent compte tous les jours ici, c'est pas la même. Mmh. Elle est très différente, suivant la saison, suivant même parfois notre façon d'être, notre perception à nous à ce moment-là, elle peut être différente, très différente.
Et alors, vous exposerez, bon, je l'annonce ici, mais bon, ça fait un petit peu loin pour les auditeurs qui nous écoutent à Millau. Vous exposez à Carcassonne, à la Chapelle des Dominicaines, du mercredi 19 au dimanche 30 mai. Donc à l'occasion, pour ceux qui passent par là, je les invite à découvrir votre travail. Sinon, vous avez un site internet.
Oui.
Donc c'est antoinedubruel.fr.
Tout à fait.
Et je vais terminer par une dernière question. On sait qu'en ce moment, c'est une période relativement compliquée pour les artistes. Comment vous, en tant qu'artiste peintre, vous vivez la situation ?
Alors, elle a été extrêmement compliquée hein, depuis un an et demi, comme pour beaucoup, beaucoup d'artistes. Je vous avoue que j'ai entendu certains mots, moi, qui me choquent, voilà, je le dis clairement. Dire que l'art ou la culture est non essentielle, enfin, en tout cas, même si l'on ne parle que du secteur culturel, je pense que c'est dommageable parce que sans art, sans culture, on ne serait pas ce qu'on est. Et je pense que ça sert à de multiples autres domaines. Et vraiment, je souhaite que à ce niveau-là, on puisse se retrouver, par exemple, pour une ville comme Millau, autant de propositions qu'il y avait avant cette crise. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas, d'ailleurs. Parce que, par exemple, au niveau du théâtre, je pense au théâtre à Millau, c'est une ville d'une richesse très, très importante. Il y a plusieurs théâtres importants, privés, mais associatifs, où il y a beaucoup de troupes, de musiciens. Il y a, bien sûr, la scène nationale de la Maison du Peuple. Et moi, qui suis un amateur de théâtre, j'ai vu beaucoup de très, très bonnes choses à Millau. Et pour une ville comme Millau, je pense que c'est très très dommageable. Mmh. Là aussi, ce type de ville, de voir quand même la culture laissée un petit peu livrée à elle-même, faut le dire. Hein.
Mmh. Alors justement, vous parlez des musiciens, des compagnies de théâtre qui en fait eux sont directement liés à cette problématique puisqu'ils sont liés au spectacle vivant. Vous qui êtes artiste peintre. Est-ce que la situation pour vous, elle vous pèse quand même ? Est-ce que vous sentez les répercussions ?
Ah mais tout à fait, tout à fait. Bon, là vous avez parlé de l'exposition de Carcassonne. Cette exposition, normalement, elle aurait dû avoir lieu l'an dernier, en mai. Je l'ai annulé parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous vous souvenez, la situation en mai de l'an dernier ne permettait pas d'effectuer une exposition. C'était trop compliqué, on ne savait pas trop où on en était. Et j'ai donc dû reporter. Entre-temps, bon, il faut vivre comme on peut. Et puis, si vous voulez, le travail d'artiste-auteur demande des expositions. Il demande des expositions, il demande d'aller dans des lieux, il demande de rencontrer du monde. Il demande... on ne peut pas travailler sans le public. Ce n'est pas possible. Mmh. Le retour, ce que peut voir le public, ce qu'il donne à voir... Bon, bien sûr, si vous pouvez faire une vente, ça améliore votre quotidien pendant un temps. Et puis en plus, ça vous permet de pouvoir voir plus loin, de pouvoir voir pour une exposition suivante, une forme d'investissement, si vous voulez. Et la situation n'est pas la même que pour les intermittents. Bon, c'est pas pareil, mais si vous voulez... il y a quand même une communauté au niveau du monde artistique, à mon avis, qui est importante. Et je pense que, comme je disais au début, il faut qu'on puisse tenir, travailler tout simplement. Et puis bien sûr, moi je pense qu'au niveau de l'intermittence, c'est nécessaire. Quand on prépare un spectacle pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, eh bien oui, on ne le joue pas. Et même si on fait beaucoup de dates après, il est important qu'il y ait un revenu qui permette de travailler par la suite. Mmh. Voilà. Voilà.
Et alors, est-ce que parfois on peut vous retrouver à l'occupation du théâtre de la Maison du Peuple ?
Alors oui, je m'y suis rendu 3 fois pour écouter essentiellement. Je suis intervenu aussi parce que j'écoutais, parce que je trouvais le mouvement très intéressant. J'ai beaucoup aimé une forme de convergence des luttes, c'est-à-dire qu'on n'oubliait pas les luttes qui avaient précédé celle-là. Parce qu'il y en a eu beaucoup ces dernières années. Je pense que les gens vivent beaucoup de difficultés aujourd'hui dans leur vie quotidienne. Et je crois que c'est bien aussi... c'est pas la première fois, mais que les artistes... rentrent parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et puis ils ont de l'imagination. Donc... Alors allons-y, l'imagination, quoi.
En tout cas, pour vous, il y a tout de même de bonnes nouvelles, puisque vous pourrez exposer donc, du 19 au 30 mai à Carcassonne. Donc, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
Merci beaucoup.
Donc, merci à vous, Antoine Dubruel. Et avant d'accueillir nos prochains invités, il est temps de faire une petite pause musicale. Et on se retrouve juste après. Donc, ce sera Daniel Boirot et son titre que j'aime beaucoup, Famila.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à ligo. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à ligo.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à ligo. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à ligo.
Papa j'aime beaucoup. Cri à libelle, mi cri à ligo. Papa j'aime beaucoup, tu cri à libelle, mi cri à ligo.
Papa j'aime beaucoup, tu cri à libelle, mi cri à ligo. Papa j'aime beaucoup, tu cri à libelle, mi cri à ligo.
Il tombe au gros, mais aux enfants, il tombe à ma belle mère. Il tombe au gros, mais aux enfants, il tombe à ma belle mère.
Il tombe au gros, mais aux enfants, il tombe à ma belle mère.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à ligo.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à ligo. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à ligo.
Maman 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 mémé, mémé maman 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 mémé.
Maman 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 mémé, mémé maman 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 mémé.
Oui maman 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 mémé, mémé maman 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 mémé.
Maman 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 mémé, mémé maman 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 mémé.
Maman j'aime beaucoup, ni cries à liti français dialibo. Maman j'aime beaucoup. Français Dialibo.
Maman j'aime beaucoup, ni cri à l'ici, français Dialibo. Maman j'aime beaucoup, ni cri à l'ici, français Dialibo.
Ça papa ton frère, c'est mon enfant, tout à moi même, même maman. Pas besoin de la paix, mon enfant, tout dans la modèle sang.
Ça papa ton frère, c'est mon enfant, tout à moi même, même maman. Pas besoin de la paix, mon enfant, tout dans la modèle sang.
Ça papa ton frère, sang.
Ça papa ton frère, c'est mon enfant, tout à moi même maman. Pas besoin de la paix, mon zonzon, tout à la mot dans le sang.
Maman, dis-moi pourquoi, ni cria les petits français dialibo. Maman, dis-moi pourquoi, ni cria les petits français dialibo.
Maman, dis-moi pourquoi, ni cria les petits français dialibo. Maman, dis-moi pourquoi, ni cria les petits français dialibo.
Ane akane nena udada, toto mame matata titata.
Ane akane nena udada, toto mame matata titata.
Uyane akane nena udada, toto mame matata titata.
Ane akane nena udada, toto mame matata titata.
Banadame pukwe, ni kozon ziyama popi di momo. Banadame pukwe, ni kozon maman pou nou di momo.
Banadame pukwe, ni kozon ziyama popi di momo. Banadame pukwe, ni kozon maman pou nou di momo.
Banadame pukwe, ni kozon ziyama popi di momo. Maman, pour nous dire maman.
Banadia me poukwe, ni kozan ziaman pour petit maman. Banadia me poukwe, ni kozan maman pour nous dire maman.
Faut s'en y en valde, oh mon enfant, ni respect puis tonton. Taïba na kakalo, mon zanzan, à nous dernier nation.
Faut s'en valde, oh mon enfant, ni respect puis tonton.
Respect puis tonton.
Taïba na kakalo, des zanzan, à nous dernier nation.
Faut s'en y en valde, oh mon enfant, ni respect puis tonton. Taïba na kakalo, mon zanzan, à nous dernier nation.
L'invité de l'actu sociale.
Jean-Yves Bou et Elisabeth Perrin, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes tous les deux enseignants et enseignantes au lycée Jean Vigo en histoire-géographie. Depuis février, il y a une prévision de baisse des aides pour le lycée. Le corps enseignant a demandé un dialogue avec la direction, un dialogue sur lequel vous n'avez pas été entendu. Pour cette raison, une manifestation s'est tenue mardi dernier devant le lycée. Le rassemblement a ensuite déambulé jusqu'au collège sur le Mandarou et place de la Capelle. Alors comment ça se fait qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du dialogue avec la direction? Comment ça s'est passé de votre côté?
Alors, en fait, ça fait depuis le mois de février qu'on connaît notre DHG, donc la dotation horaire globale de l'an prochain. Et donc, ça fait depuis février qu'on sait qu'on a moins 110 heures par rapport à l'année précédente. Ce qui impacte énormément le lycée, en fait, pour même les effectifs par classe, voilà, le fait qu'il n'y aura pas forcément de groupe d'accompagnement personnalisé, etc. Et donc, très vite, on a voulu prendre contact avec l'inspectrice d'académie pour justement demander à être reçue pour parler de cette réduction d'effectifs, hein, d'horaire. On a eu une heure avec elle en visio fin février, où elle nous a écoutés, où elle nous a un peu dit que finalement les choses n'étaient pas complètement figées, que peut-être que les choses allaient être revues avant l'été. Et puis en fait, très vite, on s'est rendu compte que les suppressions de postes étaient annoncées. Voilà, on a du coup écrit des courriers, on a trouvé que les réponses n'arrivaient pas, donc on a écrit un autre courrier pour être au final une dernière fois reçu par, donc cette fois-ci en présentiel, hein, avec Monsieur Bou qui était présent, et où là, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de dialogue, en fait, c'était un dialogue de sourds, voilà.
Alors pour cette raison, le corps enseignant ainsi que les parents d'élèves ont initié une manifestation qui s'est tenue donc mardi dernier. Quelles sont les actions qui ont été mises en place pour cette journée ?
Alors du coup, cette journée, on a voulu un peu qu'elle soit symbolique. Et du coup, on a décidé de mettre en scène une forme d'éloge funèbre, comme si on enterrait l'égalité des chances, parce que nous, on a l'impression que nos élèves, finalement, ne sont pas pris en compte et qu'ils vont avoir un apprentissage, une éducation plus compliquée. Donc du coup, on a scénarisé ça en mettant en place, donc, on avait un cercueil, on a fait un éloge funèbre au départ. Et puis, effectivement, après, on s'effondrait, on avait des pancartes avec les matières, les options qui sont impactées, et donc toutes les matières s'effondraient au fur et à mesure. Voilà, et puis à la fin, on a essayé de donner une note d'espoir en finissant avec des t-shirts colorés pour essayer de dire que finalement, on va continuer à se battre pour obtenir gain de cause. Et on espère, toujours, on espère obtenir des heures pour justement sauver certaines options et certaines matières.
Et alors justement, on va s'écouter tout de suite un extrait de l'éloge funèbre prononcé devant le lycée pendant la manifestation.
Très cher lycée Jean Vigo, tu as vu le jour le 12 septembre 1979 avec comme fait au-dessus du berceau l'architecte Jacques Lambert, le célèbre peintre Jean Dehaene et le cinéaste dont tu portes le nom. Tu semblais destiné à un brillant avenir artistique. Malheureusement, c'était sans compter sur les comptes du rectorat et de son ministre. Des choix devant être faits au nom de l'autonomie, adieu musique, théâtre ou cinéma. 41 ans, c'est jeune pour commencer à dépérir. Mais rassure-toi, tes enseignants seront là, du moins ceux qui pourront rester, pour réchauffer les cœurs et les âmes. Les corps, quant à eux, se réchaufferont d'eux-mêmes une fois l'hiver venu, à 36 par classe, les uns contre les autres dans de petites salles, visiblement la norme en vigueur. La solitude et la tristesse nous envahissent. Est-ce lié à ton isolement géographique, à la situation sociale de nos élèves ? Les savants calculs des contrées lointaines ne le pensent pas, mais sache que nous continuerons à nous battre pour que perdure ton histoire et que les générations futures disposent de moyens suffisants pour continuer à l'écrire.
Alors, une baisse de la dotation, c'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce que ça signifie pour le lycée et pour les élèves ?
Oui, alors la dotation, en fait, c'est le nombre d'heures par semaine qui sont distribuées entre les enseignements. Donc, la baisse concrètement de 110 heures, ça correspond à 12% des moyens en moins par semaine et pour l'ensemble des enseignements sur le lycée général et technologique. Et concrètement, en fait, cela signifie qu'il faut, pour arriver à compenser cette baisse, supprimer l'aide personnalisée aux élèves, supprimer des dédoublements dans certaines matières qui existaient depuis très longtemps, supprimer des options, donc en l'occurrence l'option management en seconde et l'option droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale, et supprimer un enseignement de spécialité, mais aussi quelques heures dans d'autres enseignements optionnels en fait. Donc voilà comment en fait on arrive à re-répartir les moyens globaux en fait, en faisant des suppressions.
Mais alors, c'est-à-dire que, par exemple, les matières que vous avez énoncées, ce sont des matières qui sont au bac actuellement ?
Alors, c'est varié, en fait. L'option de management, c'est une option possible en seconde qui initie les élèves qui les prépare un petit peu à la filière STMG. Donc ça, c'est pas au bac, c'est plus une sensibilisation à une matière. L'option droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale, en fait, c'est une option qui n'est pas non plus directement au baccalauréat, mais qui est une option qui est importante en fonction des volontés, des vœux d'orientation des élèves. Donc des élèves qui veulent faire du droit, des sciences politiques, de l'économie, ils ont la possibilité de cette option de 3 heures, en fait, pour découvrir des choses dont on ne parle jamais au lycée en dehors de cette option et qui est vraiment un plus pour leur orientation après. Après, l'enseignement de spécialité d'espagnol, ça, en fait, c'est un enseignement qu'on a pu ouvrir au début de la réforme, en fait. On nous a donné l'autorisation, on nous a donné les moyens pour l'ouvrir. Et là, ce qui se passe, et ce qui est vraiment scandaleux, en fait, c'est qu'il y a des élèves qui ont suivi cet enseignement en première, qui, normalement, ont la possibilité, ont le droit de le garder en terminale, mais on leur dit, non, c'est pas possible ici, vous devez l'abandonner, en fait, ou alors vous allez dans un autre lycée, et l'autre lycée sur l'Aveyron, c'est Foch à Rodez, où ils ont la même problématique de sureffectif, d'enseignement en moins, etc. Donc on n'est même pas sûr qu'ils seront accueillis, en fait, ces élèves-là, outre toutes les autres conditions que ça entraîne. Et c'est pareil, c'est un choix en moins pour les élèves qui sont en seconde et qui voudraient faire cet enseignement d'espagnol avec, sur Millau, hein, une tradition, une culture de l'espagnol aussi qui existe.
Et tout, on entendait aussi dans cette écoute l'option théâtre. Alors, moi, par exemple, j'ai fait option théâtre au lycée. Est-ce que cette option est aussi supprimée?
Alors, elle n'est pas du tout supprimée, en fait. Hein, là, la direction départementale de l'enseignement national nous a dit, nous a affirmé que c'était une spécificité du lycée Jean Vigo, qu'il y avait une tradition autour de cet enseignement et de celui du cinéma, et donc il n'était absolument pas question de les remettre en cause. Mais il y a toujours en fait une fragilité, une menace qui pèse sur ces enseignements, parce qu'il y a une part du financement qui vient de la DRAC aussi, et ces financements ont diminué. Et puis, comme on est un petit lycée dont les effectifs globaux sont pas énormes, en fait, il y a une variation des effectifs d'une année sur l'autre. Et donc, une année, on va avoir des groupes très importants, et puis une année suivante, on va avoir des groupes moins importants. Et comme la tendance est de baisser les moyens globaux, ben forcément, ce sont les enseignements les plus fragiles qui sont menacés. Donc, en fait, en même temps, on nous donne des garanties, mais ces garanties, on les avait aussi les années précédentes, et finalement, ces garanties, elles ont volé en éclats. Donc, on vit dans l'incertitude, en fait. C'est plutôt ça.
Alors, vous êtes tous les deux professeurs d'histoire-géographie. Donc, apparemment, vous n'êtes pas forcément concernés par les matières qui risquent d'être supprimées, mais de quelle manière vous êtes impactés?
Alors, on a un peu impacté hein, quand même, parce que actuellement, en seconde, par exemple, au niveau obligatoire, on est censé avoir 3 heures de cours d'histoire-géographie par semaine. Et en fait, ça fait plusieurs années hein, que nous avons 3h30, c'est-à-dire qu'on a une demi-heure en plus, hein, ce qui est très bien, hein, ce qui nous permet de faire de la méthode, etc. Donc ça, on sait en fait que l'an prochain, on n'aura pas cette demi-heure supplémentaire. On est impacté de manière générale parce que vu que, il est décidé de supprimer une classe de première et une classe de terminale, les effectifs par classe vont augmenter, c'est-à-dire qu'on sera à 35-36 par classe. Donc forcément, toutes les matières vont vivre, vont avoir des effectifs très nombreux.
Oui, il y a un autre impact, en fait, c'est sur les postes. C'est pas propre à notre matière, mais on est aussi concerné, en fait, c'est que cette baisse des moyens, c'est aussi une baisse de postes, de nombre de postes d'enseignants. Et du coup, il y a pas mal d'enseignants, en fait, qui se retrouvent en postes partagés entre le lycée et d'autres établissements scolaires. Et en histoire géo, en fait, le poste, il va être partagé entre le lycée Jean Vigo et le lycée Monteil de Rodez. Donc, ce qui signifie que ça sera un enseignant qui sera toujours sur la route, en fait, et donc moins disponible aussi pour le lycée. Et ça se généralise, en fait, ce genre de situation.
Alors, pour imaginer les conséquences, vous en avez parlé tout à l'heure, Elisabeth, une petite mise en scène avait été prévue pendant la manifestation où, en fait, plusieurs enseignants portaient une pancarte avec leur propre matière et un autre professeur énonçait les différentes disciplines ou options vouées à disparaître. Et le professeur en question s'allongeait au sol, si bien qu'à la fin de la représentation, on voyait un étalage de corps inertes au sol et ça donnait une drôle d'impression. Et on s'écoute tout de suite un petit extrait.
Alors, la DGH de l'année prochaine au lycée Jean Vigo va être diminué de 12% 110 heures au moins. C'est énorme. Et ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices. Donc l'an prochain, il n'y aura plus d'aide personnalisée au lycée. Alors qu'on a des élèves hein, qui ont été en confinement, qui ont subi la situation sanitaire, il n'y aura plus non plus de demi-groupe et de dédoublement. La spécialité espagnole doit être supprimée, mais nous nous battrons pour qu'elle ne le soit pas. Les options management en seconde et droit en terminale seront supprimées aussi. Des heures en moins à la musique, à l'occitan, au latin, parce que nous avons la suppression de l'allocation progressive de moyens qui normalement est dédiée à la ruralité et aux établissements où les critères sociaux entrent en compte. Voilà ce qui veut dire que la ruralité est sacrifiée. Et ces 110 heures sont quasiment toutes des heures post. Ça veut dire en fait qu'il y a l'équivalent de 6 postes qui sont supprimés sur le lycée.
Alors, dans cet extrait, plusieurs choses dont on a parlé, d'autres dont on en a moins parlé. Par exemple, la suppression de l'allocation de moyens dédiés à la ruralité et de critères sociaux, c'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistait ce dispositif ?
Alors, je ne sais pas à quoi exactement consistait ce dispositif. En fait, ça correspondait à une enveloppe d'heures, en fait, surtout qu'on nous donnait du fait de la spécificité du territoire rural. Et quand on a vu Madame Ladazen à notre visio en février, elle nous a dit que c'était un cadeau qu'on avait eu et qu'on n'aurait pas ce cadeau-là cette année. Mmh. Donc, c'est ça qu'on... Voilà.
D'accord. C'est leur...
Après, voilà, c'était dans le cadre de la réforme, en fait, le fonctionnement global de l'éducation nationale depuis quelques années, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, il n'y a pas de fatalité. C'est que, donc, il y a une succession de réformes à tous les niveaux, dont, en fait, les véritables buts, c'est de baisser globalement le budget de l'éducation nationale. Et à chaque réforme, en fait, pour faire passer la réforme à un niveau, on va donner des moyens corrects, en fait. À ce moment-là. Et du coup, comme on donne des moyens corrects au primaire quand c'est la réforme du primaire, au collège quand c'est la réforme du collège, on en enlève aux autres niveaux, en fait. Et donc là, en fait, pour faire passer cette réforme du lycée qui a quand même été assez contestée, assez polémique, en fait, c'est vrai que pendant 2 ans, on a eu des moyens corrects en lycée aux dépens des autres niveaux de l'éducation nationale. Et là, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que avec le contexte sanitaire, c'est l'école primaire, en fait, souffre comme les autres niveaux, mais le ministère veut un peu plus doter l'école primaire. Du coup, il enlève des moyens aux autres niveaux, et donc voilà, il modifie cette allocation qui est maintenant réservée uniquement, en fait, aux établissements périurbains en difficulté, ce qu'on appelle les établissements REP. Alors qu'effectivement, auparavant, l'éloignement par rapport au grand centre urbain, le niveau social de la population, la ruralité était pris en compte. Et c'était bien ça, c'était nouveau parce que, en fait, on est un petit lycée de entre 5 et 600 élèves, en fait. Et du coup, je l'expliquais tout à l'heure, il y a cette question de variation des effectifs. Il n'y a pas du tout le même effet, en fait, que sur des grands lycées qui ont 3 fois plus d'élèves, en fait, qui se trouvent dans des grandes villes où, dans le lycée d'à côté, on offre les autres options et les autres enseignements de spécialité, ce qui permet aux élèves de circuler et puis ce qui permet aussi de mieux encaisser, en fait, les diminutions de moyens.
Et donc, parmi ces diminutions de moyens, vous parlez donc de 110 heures en moins, ce qui représente 6 postes en moins, donc. Et là où je m'interroge, c'est est-ce que ce sont des postes en CDI ?
Alors, oui, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, en fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est l'équivalent de 6 postes, l'équivalent temps plein de 6 postes.
D'accord.
En fait, concrètement, il y a un seul poste qui est supprimé, mais dans l'éducation nationale, quand c'est un poste, en fait, hein, on est fonctionnaire à vie, en quelque sorte, et donc la personne dont le poste est supprimé, en fait, elle bénéficie d'un bonus pour retrouver un poste le plus près possible. Elle n'est pas licenciée, en fait. Et donc, sur les 5 autres postes, en fait, c'est ce qui se passe, c'est le partage des postes dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. Une autre répartition de ces heures, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais globalement, en fait, cette année, il y a eu 55 postes de supprimés sur l'Académie de Toulouse. Hein, le but national étant de faire des économies. Donc, il y a un peu moins de suppressions sur l'Académie de Toulouse parce que c'est une académie où il y a une hausse de la démographie globalement. Et ces suppressions, elles touchent principalement le département de l'Aveyron, c'est-à-dire 35 postes sont supprimés dans l'Aveyron. Avec l'idée d'une démographie en baisse, mais elle n'est pas immédiate, en fait. Et donc, sur ces 155 postes, il y en a 6 qui partent au lycée Jean Vigo, quoi. Donc, on a plus de 10% de cette perte localement, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment révolté, en fait.
Et puis aussi, ça a un impact sur les élèves, parce que ces postes ces professeurs qui vont être en poste partagé vont être beaucoup moins disponibles, en fait. Ils vont passer beaucoup de temps dans les transports, et on sait très bien qu'être sur 2 établissements, c'est beaucoup moins évident, on peut moins s'investir, moins faire de projets, etc. Et paradoxalement, en plus, il y a beaucoup d'heures supplémentaires, en fait, qui doivent être réparties par les professeurs. Donc nous, on trouve que c'est pas normal. Et je voudrais rebondir aussi sur la campagne, en fait. Ce qui est problématique, quand on parle d'égalité des chances, c'est que cette réforme du lycée qu'on a vendue comme étant, comme les élèves voilà, pouvant choisir finalement un bac à la carte avec leurs envies, etc. Ben, finalement, ben, dans des territoires comme le nôtre, eh ben, c'est plus vrai puisque ben, les élèves ne peuvent pas prendre espagnol. Et même ceux qui ont pris une spécialité, qui ont fait ce choix-là difficile en seconde pour la première, eh ben, se retrouvent à devoir changer d'établissement s'ils veulent poursuivre cette spécialité.
Mais alors, est-ce que vous savez pourquoi une telle décision a été prise ? Est-ce que c'est en lien avec la crise sanitaire ?
Vous voulez dire la baisse de la dotation ? Alors non, c'est plus compliqué que ça, en fait. En face de nous, en fait, le problème du dialogue aussi, c'est qu'on a des algorithmes. Mmh. Et donc, il y a un système d'algorithmes qui calcule des prévisions d'effectifs pour les années suivantes. Et donc, cet algorithme de prévision, il prévoit 7 élèves en moins au lycée l'année prochaine. Ce qui, bon, et pour les gens avec qui on dialogue, ils nous disent que c'est une baisse, en fait, c'est une stabilité, quoi. Cet élève en moins, c'est 1,3% de l'effectif en moins. Mm-hmm. Mais il se trouve que ces 7 élèves tombent justement sur les classes de terminale et de première et justifient la fermeture de deux classes, en fait, d'une classe de terminale, d'une classe de première et des moyens qui vont avec. Et donc, c'est, voilà, tout ce système de calcul-là qui fait que, pour cet élève en moins théorique, on nous supprime l'équivalent de ce qu'on nous supprimerait si on avait 70 élèves en moins. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de seuil, en fait, hein, qui est purement mathématique, en fait, mais qui ne prend pas du tout en compte tous les aspects qualitatifs, les aspects de continuité pédagogique, les aspects de tradition d'établissement. Et alors que des problèmes un peu identiques avaient eu lieu les années précédentes, où ont lieu dans d'autres académies, il y avait un dialogue qui était possible sur le qualitatif. Là, en fait, on a face à nous, jusqu'à présent, en fait, des personnes qui sont complètement fermées au dialogue, en fait, et qui nous opposent systématiquement les chiffres, hein. Et on a vu dans d'autres académies, là, on a un peu regardé ce qui se passait ailleurs, des lycées qui se mettent en grève ou qui manifestent pour le même genre de problème, et on lit, ils ont obtenu quelques heures en plus, en fait. Mais là, en fait, pour l'instant, c'est aucun dialogue possible. Mmh.
Et si on veut mettre en plus, regarder ça avec la crise sanitaire, nous, on est très inquiets parce que les élèves ont eu quand même une scolarité chaotique ces deux dernières années. Et donc, du coup, on va avoir besoin de plus de temps de soutien, de moments en demi-groupe pour justement rattraper le retard qu'ils ont pris. Et là, en fait, on se dit, la perspective, c'est de retour 36 par classe dans toutes les matières. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on a un peu repris le slogan aussi « quoi qu'il en coûte ». Parce que du coup, on a entendu ça au niveau national et on se dit, bah, finalement, pourquoi l'éducation nationale n'a pas ce budget-là ? En tout cas, elle ne peut pas se permettre de prendre en compte, justement, les difficultés de la crise, en fait, sanitaire.
Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de faire quelque chose pour soutenir le lycée ? Je crois qu'il y a une pétition.
Il y a une pétition en ligne. Nous, on va continuer notre lutte. Hein. On a une réunion mardi entre nous pour essayer de voir quelles sont les actions possibles, etc. Donc voilà, nous, on a essayé vraiment de. Voilà, on a rencontré la maire, on a rencontré le député, on a essayé vraiment d'alerter à ce niveau-là. Je pense que ce qui se passe au lycée, c'est quelque chose qui doit interpeller tout le monde, les parents. Hein. Les parents, c'est vrai que les parents peuvent tout à fait aussi nous aider, nous contacter pour nous soutenir et pour voir s'ils peuvent venir avec nous dans certaines actions, parce qu'il s'agit de la scolarité de leurs enfants.
Oui, par rapport aux parents, en fait, la FCPE est aussi très mobilisée avec nous, en fait. Hein, nous avons à peu près toutes les actions, enfin même toutes les actions ensemble, les rencontres, etc. Donc pour les parents aussi, ils peuvent se rapprocher de leurs représentants FCPE pour soutenir. Mmh.
Donc vous avez espoir, vous gardez espoir quand même jusqu'à la rentrée.
Oui,
c'est plutôt positif.
Alors là, on a ces soutiens, on a ces soutiens forts. On a quelques éléments qui nous laissent penser que ça commence peut-être un petit peu à bouger. On espère que ça va continuer à évoluer.
Alors, mardi matin, avant cette manifestation, un blocus a également eu lieu devant le lycée pour d'autres revendications. Et une lycéenne présente a bien voulu répondre à mes questions et on écoute tout de suite cet extrait.
Je m'appelle Louise, je suis en terminale générale. Le blocus était majoritairement par rapport au fait que le bac devient de plus en plus inégal. C'était déjà le cas avant, on ne peut pas demander aux correcteurs d'être des robots évidemment. Mais ça reste que par exemple pour le bac blanc qu'il y avait ce matin, il y avait deux sujets différents suivant les classes, c'était pas les mêmes correcteurs et il y a vraiment différents types de corrections et il y a même entendu parler que des profs pourraient faire du favoritisme vis-à-vis de leur classe. et on pouvait pas vraiment accepter ça. Qui plus est, on est complètement dans le flou. On nous demande de travailler, mais on sait pas trop dans quoi on doit aller. C'est-à-dire que moi, en ce moment, je travaille sur un oral en SP littérature, en SP anglais. Et c'est un oral qui n'a rien à voir avec le grand oral et qui de base était annulé par rapport aux épreuves finales. On ne sait pas où on va, on n'est pas soutenu, que ce soit psychologiquement ou dans le travail. On est vraiment livré à nous-mêmes et on ne sait pas où on va.
Donc ça, c'était les revendications majoritaires de ce blocus de ce matin. J'ai entendu dire qu'il y avait aussi un problème au niveau des caméras.
Oui. Le fait que le lycée veuille mettre des caméras dans le lycée, ça prouve qu'il y a vraiment un manque de confiance. Je sais qu'il y en a déjà deux dans le lycée, il me semble. Une ici, au niveau du portail principal, et une plus haut. Ils veulent en installer beaucoup plus pour couvrir tout le lycée.
Et là, par rapport donc à la dotation, c'est la problématique de cet après-midi. Comment toi, tu te sens concernée en tant qu'étudiante, enfin lycéenne plutôt?
Je me sens concernée déjà parce que je veux soutenir les professeurs qui, ça les concerne complètement. Et qui plus est, ça retire des options, des spécialités, ça retire des tas de choses comme ma spécialité espagnole. Moi, personnellement, je suis en terminale, donc ça ne m'impacte pas forcément.
Et donc là, on est sur des revendications très différentes, mais est-ce que vous partagez aussi ce point de vue, par exemple, en ce qui concerne, pour commencer, les examens?
Alors, ça dépend de quels aspects du point de vue sur l'idée générale de l'inégalité au baccalauréat. Moi, je le partage complètement, en fait, par rapport au baccalauréat précédent que des générations ont passé, où c'était des sujets nationaux anonymes, corrigés anonymement. Il y avait une égalité des chances qui était globalement assurée. Et la réforme du bac, elle introduit beaucoup de contrôle continu, elle introduit tout un tas de types d'épreuves, avec d'ailleurs un montage qui est très complexe, qui ressemble un peu à une usine à gaz, mais qui finalement introduit effectivement beaucoup, beaucoup d'inégalités, avec chaque établissement, chaque professeur qui devient maître d'une partie de la note de l'élève. Et du coup, voilà, effectivement, et avec les événements et l'annulation des épreuves qu'on peut comprendre pour des questions sanitaires, en fait, ces inégalités, elles s'accroissent. Après, sur d'autres petits points comme le cadre du bac blanc, c'est un petit peu différent quand même. Après, sur le fait que les élèves aussi soient dans le flou, ça, on les comprend complètement parce que nous aussi, on est dans le flou. En fait, c'est une réforme qui est complètement improvisée, quoi. Pour moi, c'est vraiment un scandale absolu ce qui s'est passé depuis 2 ans où on fait commencer la mise en œuvre de la réforme en même temps, en seconde et en première, et où on a les informations sur qu'est-ce qui va se passer, le mois d'avant, en fait, hein. Donc on prépare des nouveaux programmes, on n'a même pas les instructions pour savoir si on est dans ce qu'il faut. Sur les épreuves du baccalauréat, tout est arrivé au dernier moment. Sur le grand oral, là, qui est la grande chose qui fait mousser le ministère, on a eu les informations au compte-gouttes au fil de l'année. Et finalement, il y a quelques semaines qu'on en sait un peu plus. Donc, les élèves sont comme nous, en fait, dans cette incertitude, dans cette insécurité. Pour moi, je considère que la génération 2003, là, qui passe le bac, c'est un peu la génération sacrifiée de l'éducation nationale et un petit peu de l'ego de M. Blanquer et de son autoritarisme.
C'est-à-dire que sur ce coup-là, élèves et professeurs sont vraiment dans le même bateau, quoi. Il n'y a pas un des deux qui vous êtes dans le même camp, si on peut dire. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, c'était bien différent. Il y avait les professeurs, il y avait les élèves d'un côté. Et bon, là, c'est vraiment vous êtes ensemble, quoi, si je peux dire ça comme ça.
Oui, et puis au sujet de la DHG, enfin, effectivement, nous, on se bat pour nos élèves, enfin, pour certains postes, bien sûr, de professeurs, mais principalement pour nos élèves et sur leur avenir et leurs possibilités d'options, de spécialités, etc.
Et par rapport à l'ajout des caméras, quel regard vous portez sur ces nouveaux aménagements?
Alors, ça, c'est plus à titre personnel, du coup, en fait. Hein, c'est vous posez une question un peu complexe. Moi, je vais plutôt donner l'enjeu que mon regard personnel peut être, en fait. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, quelques actes de dégradation et de vandalisme, en fait, qui ont lieu dans le lycée et qui sont difficiles à résoudre, en fait. Et je pense que la direction, elle cherche des moyens. Et donc, c'est un moyen qui a été évoqué. Après, il faut poursuivre le débat pour savoir si c'est vraiment le même moyen et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour résoudre cette question-là. Après, à titre personnel, C'est vrai que la question de la surveillance généralisée, des caméras qui se trouvent partout, voilà, ça fait parfaitement écho avec l'actualité millavoise et la question des amendes de Millau et de ces caméras qui sont là normalement pour éviter la délinquance et qui finalement servent à verbaliser des gens qui vont juste manifester dehors leur désir de liberté et puis dans le respect des règles sanitaires, etc. Et qui se retrouvent comme ça sur des fichiers, à se retrouver avec des amendes dont ils ne sont même pas prévenus, ils n'ont pas été verbalisés, etc. Donc on voit en fait les dérives possibles qui sont encore plus graves dans d'autres pays avec l'association de l'intelligence artificielle et des caméras. Et du coup, voilà, si on peut privilégier des solutions qui soient moins technologiques, plus humaines et plus dans la prévention. Après, le problème, c'est que pour ça, il faut aussi qu'il y ait des gens sur le terrain. Et qu'au lycée, le problème, c'est aussi le personnel d'encadrement, les surveillances, qu'on appelle les AED, sont moins nombreux. Du coup, ils ont de plus en plus de tâches à assurer et c'est aussi tendu de ce côté-là. Donc en fait, on souffre globalement de cette politique de diminution des moyens et des moyens humains surtout, quoi.
Vous partagez aussi cet avis, Elisabeth ?
Oui, moi je pense que c'est une question compliquée en fait. Les caméras, effectivement, il y a eu cette année des élèves qui déclenchent des alarmes 15 fois par jour, hein, et ça pèse énormément sur la vie scolaire, sur les agents en fait qui du coup passent leur temps, leur journée à aller désamorcer l'alarme. Donc c'est un vrai problème et ça a été soulevé lors du conseil d'administration, hein, cette question effectivement que les moyens humains sont toujours préférables.
Parce qu'en tout cas, moi j'avais eu des échos qu'il y avait eu une votation qui avait été faite pour les caméras auxquelles peu de personnes avaient participé, en tout cas au niveau des enseignants, si c'est...
Alors le vote, il a eu lieu au conseil d'administration en fait, mm-hmm. hein. Donc c'est lors du conseil d'administration et voilà, il y a eu un moment d'échange et après ça a été voté, il y a eu beaucoup d'abstentions.
Mm-hmm. Après c'est intéressant par rapport à ça, c'est que ce conseil d'administration en fait, il a eu lieu en distanciel, ouais. En visioconférence. Et en fait, les choses se passent complètement différemment quand on est en visioconférence en fait, où on voit des visages, où on n'est pas ensemble dans la même salle, où il n'y a pas de discussions à côté qui peuvent se dérouler, où la prise de parole est beaucoup plus compliquée, où tout ça fait que en fait, on vote pas de la même façon, on n'est pas dans une même démocratie en fait, mm-hmm. quand on est tous derrière des écrans quoi.
Bon, eh bien, merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Je rappelle qu'il y a une pétition en ligne pour soutenir le lycée. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver cette pétition ?
Alors, c'est sur change.org et il doit falloir taper lycée Jean Vigo.
Oui, lycée Jean Vigo.
Mais il y a plusieurs pétitions plus anciennes, en fait. Donc, il faut un peu regarder, vérifier que c'est la bonne, en fait. On n'a pas l'adresse précise. Merci à vous de nous avoir accueillis.
Oui, c'est avec grand plaisir, en tout cas. On va se faire une dernière pause musicale avant de conclure cette émission. Et on s'écoute Zebda, les deux écoles.
La vie, comment la savoure? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. L'une disait sois érudit, l'autre chuchotait rempli d'encadie.
Comment choisir entre les deux approches? L'une disait remplis ta tête, l'autre tes poches. Entre les deux difficultés, aucune chez moi n'a fait l'unanimité.
À n'appartenir à personne, tu meurs. À trop entendre, sors de ma demeure. À pas répondre ni merde, ni s'il te plaît. T'as manqué, tout s'est dépeuplé.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
La vie, comment la savoure? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. Sans jamais s'octroyer demi-temps, elles se tiraient dessus à bout portant.
Comment faire le compromis? Dire à l'une et à l'autre c'est promis. Avancer sans qu'elles se fâchent. À l'oreille une fleur, à la taille une hache.
Oui, fallait être malin pour apporter de l'eau de moulin. Avec leurs ailes qui avaient tout démoli, en voyant la rivière changer de lit.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors
à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Comment échapper aux deux maîtres? L'un disait du chiffre et l'autre des lettres. Comment déchiffrer le hiéroglyphe quand on n'est ni Champollion ni le calife?
Quand l'un dit pardonne et l'autre venge-toi, et tout ça sous le même toit. À pas vouloir choisir entre les deux édifices, t'es pour l'un et pour l'autre commis d'office.
À vouloir être pote avec les deux, l'un et l'autre te traitent de merdeux. Et tu meurs bouche ouverte dans les flaques avec un réquiem. Dormez-vous frère Jacques?
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Ballotté, tu finis comme un de ces spécimens qui dit non merci à la race humaine.
Et pour pas être victime d'une horte-feu, un beau jour c'est toi le premier qui fait feu. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. 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 À la vie, à la mort.
Et voilà, c'est ainsi qu'on termine cette émission de l'Actu sur un plateau. Merci aux invités qui ont répondu présents, l'artiste peintre Antoine Dubruel qui nous a parlé de son art et de son expo programmée à Carcassonne. Merci également à Jean-Yves Bou et Elisabeth Perrin, enseignants et enseignantes au lycée Jean Vigo, pour évoquer la manifestation de mardi dernier contre la baisse de la dotation accordée au lycée. Merci à Nico à la technique et merci bien sûr à vous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine à la même heure, vous retrouverez nos amis Gilles et Philippe avec Conflit de Canard et des actualités toujours très acérées. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux invités. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Larzac.
L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours.